Rádio Scoop. Radio Scoop,
Michel de Certeau,
Jacques Chancel. Michel de Certeau, vous êtes historien, philosophe, freudien même, théologien, et vous êtes jésuite. Homme de parole et d'écriture, vous me paraissez être plus près du temporel que du spirituel. Mais je me trompe peut-être.
C'est en effet une question pour moi. Je n'ai pas toujours eu cette place-là. Pendant très longtemps, je m'occupais d'une revue de spiritualité, par exemple, qui s'appelait Christus. J'ai travaillé aussi dans la revue Études. Le problème, c'est que je me demande comment aujourd'hui peut-on être religieux. Je ne pense pas que ce soit une institution qui garantisse l'effectivité d'une vie religieuse. Je pense qu'il faut la chercher davantage dans le travail d'une question, d'une interrogation, à l'intérieur d'un champ particulier. Être quelque chose comme l'itinérant d'un désir dans un lieu de travail, dans l'épaisseur d'un travail. Et sans doute cela se réfère à la modification du statut de la religion aujourd'hui dans nos sociétés. Mais il y a une tradition très ancienne dans cette perspective, je veux dire ce que représentaient ces moines, ces tsarets, ou en Russie, ou dans les déserts égyptiens, je veux dire ceux qui étaient dans une place et qui essayaient de se demander comment, dans le champ particulier d'un travail, d'une technique, d'un lieu, d'une psychologie, un désir de Dieu pouvait se faire jour.
Mais alors toute votre vie est en cause, parce que
oui.
Vous êtes jésuite, vous êtes toujours prêtre.
Oui, tout à fait.
C'est difficile d'être prêtre avec ce que vous dites.
Non, je veux dire, ce n'est pas difficile, ça veut dire simplement que la sécurité d'une vie religieuse ne tient pas à une position objectivement définie comme ecclésiastique, ne tient pas à des ministères, ne tient pas en somme à une position sociale. Et je crois que la grande modification est de cet ordre, c'est que il n'y a pas fondamentalement d'objectivité religieuse dans la société. Mais ça ne rend que plus exigeant le travail de faire jour à une question, à un désir de Dieu, à l'intérieur d'une technique, comme c'est le cas de n'importe qui aujourd'hui dans une société.
Mais nous sommes convenus de croire que le jésuite est un prêtre à part. Il y a une hiérarchie dans l'Église et vous occupez une situation tout à fait exceptionnelle.
C'est sûr. C'est sûr.
Ah, vous l'avez dit.
C'est ça. C'était plus sûr, disons, dans les temps plus anciens. On peut dire d'abord que le jésuite, comme le franc-maçon, font partie d'un folklore national, et que le secret des jésuites, toute la littérature sur l'ésotérisme, la puissance, les capacités retorses du jésuite font en effet partie d'une littérature bien établie, qui n'est d'ailleurs probablement pas, qui n'est certainement pas sans fondement. Mais je crois malgré tout que, même si la situation a fondamentalement changé, même si les jésuites aujourd'hui se disséminent, même si la structure de l'obéissance quasi militaire, qui a longtemps défini l'activité des jésuites, s'effondre complètement et qu'il n'y a plus aujourd'hui de critères objectifs qui permettent à un supérieur jésuite de décider ou de manifester quels sont les principes de sa décision, je crois qu'il est vrai que le jésuite reste privilégié par rapport à beaucoup d'autres, et que j'interprète cette situation non pas comme un indice de culpabilité, mais plutôt comme une dette, comme l'exigence d'un travail rendu possible par cette situation, mais qui doit être mise au service de ceux qui n'ont pas exactement les mêmes possibilités, par exemple de liberté, de recherche, aussi d'autonomie par rapport à un certain nombre d'institutions ecclésiastiques.
Vous êtes moins discipliné que les autres.
Je ne dirais pas qu'on est moins discipliné parce qu'il y a...
Vous, Michel de Certeau,
Vous êtes un jésuite discipliné ou vous êtes en cavale?
Je ne pense pas que je sois tellement discipliné. Maintenant, ce problème-là n'a de réponse que de la part des autres. En fait, ça m'est difficile de savoir si je suis ou non discipliné. Je veux dire que j'ai suivi un certain parcours, un certain nombre de recherches, reconnues, et c'est ça qui me semble vraiment important, dans un espace de discussion fraternelle, où vraiment la question de fond est de savoir comment peut-on être chrétien aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a là une discussion entre nous nécessaire, et que pour moi, en aucun cas, ce qui me paraîtrait fondamental, enfin, ou disons plus exactement, qu'un problème de vérité peut être traité par moi seul.
Enfin, si vous vous demandez comment on peut être chrétien aujourd'hui, vous devez vous étonner d'être prêtre.
Non, je dirais que c'est une situation acquise et...
Vous avez autant la foi qu'hier?
Oui, c'est sans doute pas la même, ni la même expression. Mais en ce qui me concerne, je me sens fondamentalement croyant et il n'y a aucune hésitation là-dessus.
Oui, mais vous interrogez sur ce que vous êtes, parce que je parlais de théologie, vous êtes théologien.
Oui, c'est ça.
Je parlais d'histoire, vous êtes historien. Oui. Je parlais de religion et vous êtes prêtre. Et j'imagine, parce que je connais bien vos livres, que l'histoire vous a fait oublier ce que vous êtes, c'est-à-dire au départ prêtre.
Non, pas du tout, au contraire. C'est pour des raisons religieuses que je suis venu à l'histoire. Enfin, pas seulement, parce qu'il y avait aussi un rapport à la philosophie. Enfin, je viens de la philosophie et l'organisation de la raison me semblait justement rester très idéologique par rapport à des questions concernant la réalité, le réel, le grand murmure de ce qui se fait, des conflits. Et de ce point de vue, l'histoire se présente comme une science où on traite fondamentalement les rapports entre la raison, enfin un type de compréhension, et la violence, des conflits, etc. Où on traite aussi le rapport entre un vouloir et une conjoncture. Où on traite les rapports entre une activité scientifique et aussi tout ce qu'il y a de fiction, de mirage dans une société, etc. Et pour toutes ces raisons, je me sentais justement porté à faire de l'histoire avec tous mes présupposés ou mes désirs, disons, philosophiques. Mais fondamentalement, cet intérêt pour l'histoire, il vient d'où ? Je crois qu'il y a un rapport très intérieur entre le christianisme et l'histoire. On peut dire que c'est marqué initialement par cette chose jamais véritablement pensée, enfin qui est toujours une limite mais en même temps une exigence, à savoir que ce qu'on appelle l'absolu s'est inscrit dans l'histoire comme un individu particulier et dans un moment singulier. Bon, et que cette étrange disparition de Dieu dans l'opacité de l'histoire est une situation qui exige du chrétien, enfin quand on veut réfléchir, et je dirais aussi simplement dans l'activité de chaque jour, un certain rapport avec l'histoire. Mais si vous voulez, je terminerai par là, c'est que ce que j'ai surtout étudié, par exemple, dans la littérature ou l'histoire religieuse, c'est essentiellement des mouvements spirituels, mystiques, etc. Et une des choses qui m'a toujours paru vraiment essentiel à ces expériences mystiques, enfin ces expériences les plus radicales dans une tradition chrétienne, c'est justement leur volonté de récuser l'exception. Je veux dire l'extase, le moment exceptionnel, qui est en effet un moment nécessaire dans l'expérience mystique, mais qui doit être dépassé pour rentrer dans le quotidien, enfin dans le banal, dans ce que de mystiques appellent la vie commune. Le réel étant justement l'acceptation de cette limite d'un travail particulier et au fond, plus essentiellement, de la mort.
Et vos études de philosophie, vous les devez aux jésuites?
Non, j'avais commencé avant.
C'est une vocation tardive?
Oui, je suis rentré, j'avais 25 ans chez les jésuites et j'avais déjà un certain itinéraire.
Poussé par vous, par vos parents?
Non, pas du tout, parce que justement, pendant plusieurs années, au fond, j'étais assez étranger à la foi et je n'ai connu les jésuites qu'en y entrant. J'y suis entré par le père de Lubac et aussi séduit par ce que représentait à ce moment-là Fourvière à Lyon, qui était une place où se retrouvaient à la fois des jésuites travaillant en Chine, d'autres qui étaient ouvriers, d'autres qui étaient théologiens, etc. Il y avait là un laboratoire qui me semblait vraiment représenter quelque chose de, pour moi, de fascinant, à savoir une coopération marquée aussi par le respect des différences.
Vous êtes entré chez les jésuites au moment où vous aviez en fait terminé vos études chez les laïcs.
Oui, c'est ça, mais vous savez que...
Vous avez recommencé toutes vos études ?
Oui, enfin, selon un schéma un peu abrégé, mais enfin, j'ai eu quand même, voyons, 5-6 ans d'études. Vous savez, les études chez jésuites sont assez longues, et je n'ai pas coupé cette longueur.
On parlait tout à l'heure d'aristocratie. Il y a également de l'aristocratie dans ce que vous êtes. Michel de Certeau, c'est quelle région de France ?
Ça, c'est le Dauphiné. Enfin, moi, je suis né en Savoie. Mais c'est une famille qui est originaire plutôt du Dauphiné, du nord du Dauphiné.
On peut suivre les images d'Épinal et voir ce que l'on dit de vous. Je l'ai lu d'ailleurs. Mm-hmm. Michel de Certeau, aristocrate, prêtre, jésuite et gauchiste. Oui. Tout cela va ensemble ?
Généralement, non.
Pour vous ?
Non, vous savez, l'aristocratie, en fait, dans le cas particulier, c'est des petits nobliaux roturés, enfin du moins de robes. De toute façon, ça ne me paraît vraiment pas pertinent. J'ai une éducation, disons, de moyenne bourgeoisie, enfin de moyenne petite bourgeoisie. Et ce nom que je voulais pendant un temps abréger, parce que cet article me paraissait vraiment inutile, dérisoire même, par respect pour ma famille et aussi pour un fait, puisque je suis né là, il n'y avait aucune raison de le rejeter, enfin de le dénier, mais ça ne me paraît pas pertinent. Maintenant, savoir si je suis gauchiste, en effet, surtout en 68, enfin, j'ai été très marqué par cette expérience commune, et toute une série de travaux de recherche qui ont suivi peuvent porter la trace de la cicatrice, enfin, de ce qu'a ouvert cette période, enfin, pour moi comme pour un certain nombre d'autres, avec comme exigence personnelle justement d'articuler la question posée en mai 68, qui au fond était aussi pour nous, enfin pour beaucoup, bien antérieure, de l'articuler sur les techniques d'une société. Je veux dire que je me sens absolument hostile à une position selon laquelle on se donnerait un champ marginal, très rapidement d'ailleurs folklorique, en dehors... d'une part de ce qui se passe dans la masse de la population, dans la réalité de la vie quotidienne, et d'autre part en dehors des instruments qui organisent une société. Alors de ce point de vue justement, par exemple le travail historique est un champ modeste, mais au moins qui rend nécessaire un rapport avec des techniques actuelles de la construction de l'histoire, avec des lieux de laboratoire, avec des équipes de recherche, et ça me paraît vraiment essentiel.
Mais Michel de Certeau, en ce moment vous êtes beaucoup plus occupé de politique que de Dieu. Il y a quand même une ambiguïté dans ce que vous êtes. Non,
non, moi je n'ai pas du tout cette impression-là. Si vous supposez que Dieu est une île quelque part isolée de cette histoire, alors oui, mais ça on est un peu dans un imaginaire concernant Dieu. Si vous supposez au contraire qu'au fond, ce visage de Dieu, enfin depuis qu'est né le christianisme, a toujours été un visage d'homme, la surprise, enfin, de quelqu'un d'autre qui survient, ou comme il est marqué déjà dans l'évangile, le voleur, celui qui vient de nuit, c'est-à-dire, au fond, le visage étranger. Vous pouvez reconnaître, en tout cas, moi, je reconnais justement le lien très étroit qui existe entre ce travail de l'histoire, toujours porté aux limites d'une société, à la découverte, enfin, c'est comme ça que je l'entends, de ce qui d'autre est survenu ou survient encore, et ce visage opaque, enfin de Dieu qui nous paraît, qui apparaît, soit sur le mode très particulier, comme je le disais tout à l'heure, de cet individu né il y a 2000 ans, soit fondamentalement aujourd'hui, sous le mode de cet océan anonyme, méconnu, de toutes ces cultures, de toutes ces sociétés, qui sont pour nous la réalité de Dieu.
Mais vous n'avez jamais été tenté d'abandonner la vie religieuse ?
Non.
Votre vocation est intacte ?
Non, oui, elle est intacte. Enfin, je veux dire, c'est pas un trésor, c'est pas un coffre-fort, c'est pas un capital qui s'userait ou non. C'est une question qui vraiment organise mon travail, mais dont je ne pense pas que la visibilité soit la garantie.
En vous lisant Michel de Certeau, nous suivons l'itinéraire d'un historien. Nous suivons également le parcours d'une interrogation. Mais l'homme que vous êtes, que devient-il dans cette affaire ? Car vous allez très loin dans la philosophie, dans l'histoire. Vous vous occupez encore un peu de vous-même ?
Qu'est-ce que c'est moi-même ?
Je vous le demande.
Ben, c'est cette marche. Je parlais tout à l'heure d'itinérant. Peut-être faudrait-il ajouter à cela, justement, au fond, une question, je crois, enfin, pour moi, chrétienne, d'autres la vivent tout à fait autrement. Un désir, enfin, de récuser le propre. Si vous voulez, je pourrais dire que, finalement, l'exigence chrétienne, ça consiste à supposer, à attendre, à espérer que n'importe qui d'autre est chez lui dans votre lieu propre. Et que, au fond, le but n'est pas de se constituer une place acceptée, et dans, ce cas, dans cette perspective même, ce n'est pas justement de se constituer des maisons, pignon sur rue, une façade, des étiquettes, des patentes, mais au contraire, de marcher ou de laisser l'autre venir. Peut-être que c'est, vous me rappelez un souvenir de quand j'étais gamin, me promenant en Angleterre en vélo sous la pluie dans cette verdure criante là du côté d'Oxford, et je me disais, j'ai beau être dans un autre pays, je reste le même. Et qu'au fond, le problème, ce serait de savoir comment est-ce qu'on peut être altéré par l'autre, enfin altéré dans tous les sens du terme, altéré de désir, mais aussi changé. Alors, l'homme dont vous parlez, c'est plutôt ça. Comment est-ce qu'une rencontre ou un travail aussi peut, je dirais, changer ce lieu propre qui est le point de départ, de toute façon, de n'importe qui, et l'ouvrir dans cet espace clos que qui constitue chacune de nos existences? Comment est-ce qu'une fenêtre, un champ, une voix, une réalité, enfin, peut altérer l'atmosphère? Et ça, c'est pour moi quelque chose que je vis comme chrétien.
Michel Le Certeau, vous êtes membre de l'école freudienne de Paris, vous enseignez à l'université, je crois.
Oui, Paris 7.
Je m'aperçois que vous tendez à faire oublier votre appartenance à une religion, à un ordre, et je m'explique, par exemple, dans ce livre, ce témoignage qui paraît aux éditions Gallimard, l'écriture de l'histoire, il y a Michel de Certeau. À aucun moment, il n'y a jésuite ou abbé de Certeau ou père de Certeau. Mmh. Vous voulez être un historien comme les autres.
C'est pas ça, c'est que le fait d'être jésuite est pour moi le lieu d'un engagement privé, fondamental. Mais on ne met pas nécessairement sur la couverture d'un livre qui se peut scientifique, marié. Ce n'est pas... enfin, dans un certain nombre de livres américains, c'est très important. Vous savez, on met toujours marié, tant d'enfants, etc. Bon. Mais je dirais que la question religieuse est pour moi de ce type. Ce n'est pas une patente. Je ne représente pas un groupe jésuite quand j'écris un bouquin d'histoire. Je fais une recherche personnelle.
Vous êtes l'historien.
Je peux dire qu'à cet égard, un certain nombre de questions philosophiques ou historiques ou analytiques ne dépendent pas de mon appartenance à la Compagnie de Jésus, et qu'a fortiori, je n'y suis pas le témoin ou le délégué de cette institution. Donc je n'ai aucune raison de supposer que l'indice jésuite est une pertinence, enfin, dans ce travail.
Enfin, il est important de parler de tout cela et de
je dirais, si, pour préciser cela, je dirais, comment ce qui concerne le mariage, enfin, c'est un amour privé et aussi une exigence interne, mais peut-être serait-elle corrompue si j'en faisais justement le moyen d'une définition sociale.
Nous avons parlé de tout cela, nous avons dit ce que vous étiez, c'est-à-dire jésuite, prêtre, pour mieux expliquer ce que vous êtes encore, et ce que vous êtes peut-être surtout, l'historien. Mmh. Et à un certain moment, vous dites, dans le sépulcre habité par l'historien, il n'y a que le vide, comme si c'était un constat d'absence.
Oui, enfin, il faudrait ajouter un certain nombre d'autres éléments en ce qui concerne l'histoire. Je pourrais plutôt, pour expliquer cela...
D'ailleurs, vous voulez parler des morts qui font l'histoire.
Non, c'est plutôt l'histoire qui fait des morts. Mais je prendrai une parabole que j'aime beaucoup. Vous vous souvenez du roman Robinson Crusoe, et de ce moment très important qui casse la nouvelle en deux, où Robinson découvre sur le bord de son île les traces d'un pied nu. C'est sur le bord de l'île. Vous savez, Robinson Crusoe, c'est une sorte de grand mythe de la société technocratique, enfin, où l'homme sans père construit une usine dans un espace découpé, une île. C'est comme ça qu'on a construit une ville, c'est comme ça qu'on écrit sur une page blanche. Et voilà que ceci est interrompu par cette découverte de quelqu'un d'absent et pourtant là, marqué par son pas sur la plage, c'est-à-dire sur le bord, à la limite. Eh bien, je pense que le travail historique a à voir avec cette histoire, dans la mesure où ce qui définit le présent comme rompant avec un passé, n'emporte pas moins sur les bords, sur ces plages, les traces d'absents, qui sont pourtant déterminants. Et on peut dire que, par exemple, toute la démarche freudienne restaure ce rapport avec l'absent qu'est le père, qui pourtant n'est plus là, et qui organise toute la construction psychologique d'un individu, son histoire, etc. Eh bien, je pense que l'histoire joue aussi ce rôle au niveau d'une société, c'est-à-dire repérer les traces de quelque chose qui n'est plus là et qui pourtant a été déterminant dans le présent. Alors, qu'est-ce que fait l'historiographie ? Elle part de ces traces et au fond, elle construit un récit sur ces deux éléments vraiment réels, à savoir d'une part une organisation présente, des démarches scientifiques dans le cas, des interprétations sociologiques, économiques, etc., du fonctionnement d'une société, et puis quelque chose qui est laissé là comme trace, comme une trace de pas, par ceux qui ne sont plus là. Et le résultat, ce n'est pas un discours qui dise ce qui a été, puisque de toute façon c'est disparu et qu'on n'en a plus que quelques fragments épars. Mais le résultat, c'est une sorte de fiction, enfin au sens vrai du terme, c'est-à-dire une construction littéraire qui établit un rapport entre nos moyens techniques de compréhension et la place où se construit ce discours, et d'autre part, ce fantôme toujours habitant là, enfin comme le père de Hamlet, hein, et revenant sur le mode d'un récit.
Mais il y a une chance et une responsabilité de l'historien, parce qu'on peut faire dire ce que l'on veut à l'histoire.
C'est pour ça que il y a, ça je suis tout à fait sensible à cela, c'est même un des points que j'ai essayé de souligner, mais il y a quand même un certain nombre de démarches techniques qui font qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi sur des textes. Ce qui ne veut pas dire que des textes ne soient pas susceptibles d'interprétations très différentes selon le type de méthode ou de référence théorique qu'on a. Et c'est un premier type de problème, donc il y a la possibilité d'interpréter différemment des textes selon des méthodes qui permettent pourtant de vérifier ou de donner quelques limites à cette interprétation. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est le lieu social où se construit l'histoire. Je n'en prends qu'un exemple, justement, parce qu'il est très simple et qu'il se réfère aussi à ce qui m'avait beaucoup frappé. L'histoire comme texte écrit, dire majoritairement, même si heureusement aujourd'hui l'historiographie essaye de trouver des méthodes ethnographiques, bon, majoritairement, le matériau de l'histoire, c'est de l'écrit. Et c'est élaboré par des gens qui sont les spécialistes de l'écriture, des lettrés, enfin des professeurs, etc. Et c'est destiné à des gens qui sont capables de lire, et donc qui ont aussi un rapport tout à fait particulier avec l'écrit. Alors, dans ce petit système qui va de l'écrit à l'écrit, quel est le rôle de cette immense majorité de la population qui n'écrit pas, ou pour laquelle, en tout cas, l'écriture n'est pas pertinente? D'abord, dans le matériau, puisque 99% de, je suis sur 100 de ce qui s'est passé dans le monde n'a pas été écrit, ou 999 sur 1000 des gens dont on parle n'ont pas écrit, même pas laissé de traces. D'autre part, même quand il s'agit d'écrit, qu'est-ce que ça veut dire que de transposer au niveau de l'écriture ce qui a été monument ou trace, etc. Bon. Alors je dirais que là, il y a un problème aussi de la partialité de l'histoire qui construit un discours général sur une base extrêmement étroite. Je crois que c'est une construction légitime, nécessaire, mais qu'on est toujours devant la nécessité d'élargir cette conception de l'histoire et d'avoir à conserver présente à ses yeux les limites de cette construction de l'histoire. On publie un bouquin qui s'appelle l'histoire de France ou l'histoire de la Champagne. En fait, on ne parle que de choses extrêmement limitées.
Mais Michel de Certeau, comme nous sommes loin en ce moment de l'histoire racontée aux enfants.
Peut-être pas tellement, parce que dans toute histoire,
Vous l'avez compliqué l'histoire, non?
Ça a toujours été très compliqué. Vous savez, ce qui est le plus compliqué, c'est ce qui est le plus simple. Un conte d'enfant, c'est merveilleusement retors. Et il y a énormément de choses investies dans un récit d'enfant. Mais l'histoire joue des fonctions extrêmement complexes dans une société, puisqu'elle est aussi une représentation qu'une nation se donne d'elle-même. Ou bien, en tout cas, qu'une perspective politique, économique se donne d'elle-même. Et il y a dans n'importe quelle histoire un rapport entre ce qui est matériaux, méthodes, contrôlables, et d'autre part une construction qui est un peu une sorte de légende. À mon avis, justement, ce qui me semble très intéressant dans l'histoire, vraiment fascinant, c'est ce en quoi elle est science-fiction. C'est-à-dire, il y a de la science. Et ce serait dérisoire et ce serait lamentable de supposer qu'une histoire peut se dispenser de tout ce contrôle technique nécessaire à sa construction. Mais d'autre part, il y a un aspect fiction, un aspect récit, un aspect conte pour l'éveiller des chaumières.
On peut inventer.
Non, ça ne veut pas dire qu'on peut inventer, parce que toute écriture est fondamentalement invention. Et on peut dire aussi que, par exemple, un certain nombre de romans de Balzac sont plus éclairants sur l'histoire du XIXe siècle que bien des livres d'histoire. Et où est la plus grande proximité du réel? Moi, c'est vraiment ma question comme historien. Je suis venu à l'histoire justement parce que, au fond, la question, c'était quel est le rapport entre une écriture et le réel? Mais on peut dire, et on sait simplement, par exemple, d'un point de vue analytique ou freudien, que les rêves racontent davantage de votre relation avec le réel qu'un certain nombre d'activités techniques contrôlables. Bon.
Vous avez répondu à cette question, qu'est-ce qu'un historien? Enfin, vous essayez d'y répondre.
Oui. Si c'est pour donner une définition, non, je ne réponds pas. Je veux dire que l'historien, d'ailleurs, se définit en marchant, et quand on constate ce qu'a été l'historien au Moyen-Âge, ou ce qu'il est dans une société africaine, ou ce qu'il est en Inde, ou ce qu'il est aujourd'hui, il y a de telles disparités qu'il n'est pas absolument sûr qu'il y ait des définitions, enfin des critères constants pour le définir. On pourrait dire que quand même, il y a un certain nombre de points. Premièrement, le rapport aux morts ou à la mort. Ça, c'est quand même essentiel à l'histoire. Quel traitement, quelle place le discours présent fait-il aux morts, à son passé ou à ce qui concerne la limite, la mort? Un deuxième aspect, c'est, je crois justement, qu'il est toujours question dans l'histoire d'une relation entre une rationalité nécessaire, une cohérence, une représentation, enfin une intelligibilité, une activité d'homme, quelque chose qui est de l'ordre du défi, et d'autre part, les conflits qui définissent l'histoire. L'incohérence, la masse, l'imbroglio, enfin de ces épaisseurs de stratifiées de l'histoire. Et ça, c'est quand même propre à l'histoire. Et il y en a probablement un troisième élément que je crois assez constant, c'est le rapport au pouvoir. Que ce soit dans une société africaine ou dans la société française, il y a toujours une relation du discours historique avec un pouvoir politique. Avec une violence finalement, car un pouvoir c'est toujours de l'ordre de la violence. Et il s'agit dans le discours historique de savoir comment on peut symboliser, enfin sémantiser, affecter de sens le pouvoir, ou bien à l'inverse, comment de cette place de l'histoire il y a une critique nécessaire du pouvoir. Et que c'est un jeu là, qui met, comme le montrait déjà très clairement Machiavel, l'historien dans un rapport toujours très difficile, quelquefois coquet, quelquefois critique, dans un rapport avec le pouvoir établi.
Mais Michel de Certeau, dans quel livre d'histoire avez-vous appris? Dans Michelet, dans Gaxot, dans Decaux, Castelot? Quelles sont les différentes qualités d'historien?
Vous savez, j'ai appris l'histoire en faisant des chaises, c'est-à-dire en travaillant des archives. Travail très modeste, continu pendant très longtemps, faisant même des éditions critiques, travail érudit, Parce qu'il n'y a rien de tel pour apprendre un métier que la modestie, je dirais la pudeur du travail sur le matériau.
La recherche.
Alors, oui. Alors il est évident qu'un certain nombre d'historiens m'ont beaucoup marqué. Je pense à un homme comme Dupont, par exemple, ou qu'un certain nombre d'expériences freudiennes m'ont beaucoup appris avec Lacan, ou que peut-être tout autant un certain nombre de recherches philosophiques. Du côté de Derrida ou de Lévinas ou une longue initiation, quasi un long noviciat dans Hegel pendant plusieurs années, enfin m'ont appris aussi beaucoup de choses. Mais finalement, je pense que ce qui est vraiment décisif, comme dans n'importe quel métier, c'est le métier lui-même, la fabrication de la chaise.
Mais vous considérez toutefois que l'histoire, c'est d'abord de la politique.
Non, je
Maurras
disais toujours...
disait politique d'abord.
Oui, mais enfin, ça n'a pas beaucoup de rapport. Maurras, c'était un homme politique ou un homme de lettres. Il avait ses engagements politiques, mais enfin, ce n'était pas de l'histoire. Et je disais que l'histoire a toujours un rapport avec le politique. Je ne disais pas que c'est une tâche politique. Ce qui est intéressant, c'est quand même que...
C'est souvent un discours politique.
C'est souvent un discours politique. Et aussi, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir le nombre d'historiens qui ont commencé par un travail d'histoire et qui sont venus à la politique. Ou inversement, le nombre de politiciens qui, pour des raisons diverses, quittant le champ direct de la responsabilité politique, sont venus à l'histoire. Et que ces alternances de moments historiques et de moments politiques dans la même carrière n'est pas sans signification.
Pour qui avez-vous écrit l'écriture de l'histoire ?
Pour qui ?
Pour qui, oui. Pour les historiens, pour les philosophes, pour les théologiens, pour les hommes politiques.
Peut-être d'abord par nécessité interne, pour élucider un certain nombre de questions que je rencontrais, de tracer un chemin, de débrouiller la forêt dans laquelle je me trouvais, et constituer là une sorte de poétique. De l'histoire, enfin au moins en ce qui concernait le champ très étroit, le petit village dans lequel je travaille, car il y a des expériences d'historiens extrêmement diverses. Et puis, deuxièmement, je pense à cause du rapport très, très étroit que l'histoire entretient avec quantité de questions philosophiques, politiques, théologiques aussi si on veut, puisque quand on parle d'histoire religieuse, en effet, il y a aussi des questions théologiques. Alors, je n'ai pas de destinataire précis. J'ai un certain nombre d'amis, de répondants, de maîtres, de collègues, etc. Et je pense qu'un livre, c'est comme la production d'un objet dans une usine. C'est un jalon, un morceau de plus. Ça permet quelque chose de nouveau à d'autres. Ça peut être critiqué. C'est n'importe quel livre est endetté par rapport à la quantité d'autres recherches. Je veux dire, ça fait partie d'un ensemble.
Il vous arrive de parler de vos travaux avec d'autres jésuites?
Oui, tout à fait, bien sûr.
Comment considère-t-il votre travail ?
Ben, les uns sont intéressés, les autres trouvent que c'est incompréhensible, d'autres jugent ça absolument hors de leur champ et donc sans intérêt, c'est-à-dire que c'est comme partout ailleurs, enfin c'est un chemin à côté de beaucoup d'autres chemins et il n'est pas nécessaire que tout le monde y passe.
Vous pourriez écrire l'histoire d'aujourd'hui parce que vous dites que le passé est lisible et le présent est caché.
Oui.
On cache tout, à votre avis ?
Non, mais j'ai jamais dit ça, mais c'est un problème débattu, en effet, de savoir si l'histoire actuelle est possible. Autrement dit, si l'histoire ne requiert pas une distance. Il est intéressant d'ailleurs de voir que le terme histoire ou historique à la télévision ou dans le journal intervient au contraire uniquement à propos de l'actualité. C'est une rencontre historique, c'est un cas historique, etc. Bon. Et ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de voir justement l'importance prise par l'analyse d'une trajectoire, d'une expérience, une sorte de monographie. Tenez, par exemple, pour prendre le dernier numéro d'Actuel, comporte une histoire de 5 ans de publication, où on a publié dans le dernier numéro des recherches une analyse de l'histoire de ce qui s'est passé hier dans la rue des Caves. Bon, ça se présente comme histoire. qu'est-ce que c'est que cette édification, cette construction d'un récit qui fasse état des étapes d'une démarche. Je crois justement qu'au fond, l'histoire à ce point de vue-là, et d'ailleurs c'est comme ça que ça joue aussi dans Freud, lorsqu'il raconte l'histoire d'un malade, c'est vraiment le mode de l'analyse, permet de voir comment sont liés les différents moments d'une activité. Et que c'est un instrument d'analyse extrêmement précieux.
Michel Le Certeau, dans le christianisme éclaté, comme l'on dit, quelle place occupez-vous ?
Oui, c'était le titre d'un livre, que j'ai fait, titre qu'on peut discuter.
C'est vous qui le discutez déjà, christianisme éclaté.
C'est le titre que je donnais en effet à une situation, je crois, réelle aujourd'hui, que le christianisme est en morceaux, ne constitue plus une grande religion unique, qu'en réalité il y a une dissémination de ces expériences. J'occupe une place parmi d'autres. Ce que je crois caractéristique de la situation aujourd'hui, c'est que au fond, plus disparaît le caractère monolithique de définition dogmatique, morale, légale, plus apparaît la double nécessité, d'une part, d'une certaine radicalité, enfin je dirais au moins d'une certaine sincérité dans la démarche particulière, singulière, privée qu'on a. Donc il faut être vérace, modeste, mais vérace, radical dans cette démarche. Et d'autre part, la nécessité d'une reconnaissance, en tout cas d'une critique, d'une discussion mutuelle, qui ne cherche pas à constituer un nouvel objet commun, à définir une nouvelle orthodoxie, là où elles sont toutes en panne, mais au contraire, à vérifier ce qui se passe dans différents endroits, pour savoir dans quelle mesure on peut le reconnaître comme chrétien, tout en n'étant pas absolument d'accord avec tout ce qui se fait là. Et cette union dans la différence, enfin, qui est un vieux thème de recherche, même de publication, c'est au fond peut-être un des modes sur lesquels une multiplicité d'expériences chrétiennes peuvent aujourd'hui se reconnaître comme chrétiennes, tout en étant dans la situation d'un christianisme éclaté.
Et vous n'êtes pas l'un des responsables de l'éclatement du christianisme ?
Bon, non, c'est vraiment...
Vous occupez une situation particulière en ce moment. Les prêtres qui pensent comme vous, qui interrogent, qui posent des questions, qui vont très loin d'ailleurs.
Oui. Je crois que ça c'est plutôt folklorique, vous savez. Je ne fais pas beaucoup d'illusions l'importance que peuvent avoir aujourd'hui des déclarations spectaculaires d'un certain nombre de prêtres. Ça occupe peut-être une grande place dans le théâtre des masses médias, enfin sur le plateau du show public, mais je veux dire que ça occupe sans doute d'autant plus de place là que ça en occupe moins dans l'organisation effective des pratiques sociales.
Michel Le Certeau, je pense à l'un de vos livres, l'un de vos témoignages, La possession de Loudun. On a l'impression que pour vous le diable est partout. Vous le pensez toujours ?
Ce que je veux dire par là, c'est que le diable n'est pas identifiable. Ça serait trop commode de supposer qu'en effet, on peut localiser là quelque chose comme le diabolique et s'en débarrasser de cette façon. C'est-à-dire comme si on pouvait en effet pratiquer l'exorcisme en localisant dans un lieu particulier ce qui est diabolique. Et par là, je dis justement que le diable n'est pas quelque part en particulier. Ce qui ne veut pas dire qu'il est partout, parce que qu'est-ce que signifierait cette expression-là ? Mais ce qui me semble très, très frappant, enfin, dans n'importe quelle organisation sociale, c'est cette volonté de créer le bouc émissaire, de pouvoir chasser quelqu'un qui porterait toutes les maladies d'une société.
D'inventer la victime.
Et de constituer la victime. D'ailleurs, la victime n'est jamais victime pour rien. Il y a aussi des éléments qui font que c'est celle-là, plutôt que d'autres. Mais c'est à cet égard que je ne me sens absolument pas d'accord pour dire « le diable, c'est ça ». Et que les raisons qui créent du diabolique, enfin, qui localisent le diabolique comme quelque chose de particulier, tiennent à l'organisation générale d'une société ou d'un type d'existence aujourd'hui.
Mais pourquoi avoir écrit La possession de Loudun ? Loudun, c'est une vieille affaire, ça date de 1630.
Oui, c'est ça.
C'est l'affaire d'Ursuline.
Oui, oui. Oui, c'est une...
Totalement ensorcelée par un prêtre.
Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que...
C'est l'affaire d'aujourd'hui, encore ?
Non, pas directement. C'est comme un conte. Pourquoi est-ce que Shakespeare écrivait un Jules César ? Je crois que même si dans le cas particulier en ce qui concerne la possession de Loudun, je me suis payé de longs voyages enfin dans les caves des archives, enfin dans ces grandes grottes où se conserve l'écriture minuscule, retorse et perdue enfin de ces procès-verbaux anciens, même si donc je pourrais maintenir phrase par phrase le texte que j'ai écrit comme justifié par un certain nombre de références scientifiques, je pense que le problème essentiel pour moi n'était pas là, c'est que cette histoire de Loudun est une sorte de mythe à valeur, fonction mythique et peut, comme dans un théâtre, signifier par grâce à une certaine distance une question toujours réelle aujourd'hui, mais qui n'a pas du tout la même forme. Autrement dit, comment fonctionne en effet l'exorcisme qui crée un diable ou plus fondamentalement, enfin plus dans le cas particulier, du sorcier. Et de ce point de vue, quand j'écrivais la possession de Loudun, enfin, j'étais encore pas si éloigné de ce qui avait créé ces gauchistes redoutables d'où le mal venait. Et la question consiste justement à se demander dans quelle mesure cette création de diabolique est le symptôme d'un problème beaucoup plus global. Et comment peut-on atteindre ce symptôme ? Et dans le cas de la possession de Loudun, justement, j'essayais de montrer qu'il y avait joué sur le théâtre de la possession de Loudun quantité de questions qui concernaient, par exemple, le déplacement des structures religieuses qui étaient en train de perdre de leur pouvoir, l'apparition d'une mise en place du pouvoir politique, les querelles entre protestants et catholiques, l'indécision scientifique lié d'ailleurs au commencement de la science, sur ce qu'on peut appeler réel, car dans tout ce débat de la possession de Loudun, la question était de savoir qu'est-ce qui est réel dans une apparition, ou dans un cri, ou dans une vision, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Quel jugement porter là-dessus ?
Ou dans un miracle.
Ou dans un miracle, oui. C'est le début de la science et on voit très bien, enfin ce qu'on entend par science aujourd'hui, et on voit très bien comment le théâtre de Loudun, en ce qui concerne la position des médecins, posait le problème de ce qui est naturel ou ce qui est surnaturel, de ce qui est réel ou de ce qui ne l'est pas, de ce qui est objectif ou de ce qui ne l'est pas. Donc c'était un grand débat épistémologique, enfin d'une théorie de la connaissance qui se jouait là dans les termes d'une relation au diabolique.
Michel de Certeau, y a-t-il sorcellerie en ce XXe siècle ? Il y a des cas de sorcellerie.
Il y a des cas de sorcellerie, oui.
Des cas d'envoûtement.
Oui.
Ce sont des cas normaux.
Alors, moi, je ne connais pas suffisamment...
C'est Freud qui se prolonge ou c'est autre chose ?
De toute façon, la sorcellerie n'est pas... Enfin, intéressait énormément Freud, mais enfin, il ne s'était jamais très prononcé sur la sorcellerie. Ce que je crois, c'est que... ressurgit sur ce mode-là, comme sur d'autres... une sorte d'angoisse du sens, de l'existence, de la douleur, de la mort, enfin de tout ce qui élimine une organisation technocratique de la société. Enfin, pour la mort, pour la douleur, pour l'amour, il n'y a plus de langage, il n'y a plus de mots. Enfin, ils sont tous entrés dans un système et dans une économie anonyme. Et on essaye de retrouver, peut-être sur le mode du diabolique, mais sur aussi quantité d'autres modes, des mots pour ça. Un langage, je dirais que nous sommes dans une civilisation qui va vers ce que j'appelais l'homme huître, l'homme dans sa carapace, celle de sa bagnole ou celle de son appartement en maçonnerie, et un sujet qui ne sait plus quoi faire, même. Cet homme renfermé est pris dans un système d'opération, de pratiques régulées, prévues, enfin comme dans un bureau, on vous dit il faut faire ceci, ceci, cela. Bon. Et puis le sujet est en reste quelque part ailleurs et cherche comment exprimer ce qui reste fondamental. Enfin, par exemple, tout ce qui est question concernant le rapport à la mort, non seulement chez le vieillard ou chez le mourant, mais même dans la vie de tous les jours. Où est-ce que ça peut se caser? C'est le déchet, ça. C'est ce qu'une société du progrès ou de l'avance technocratique ne peut pas reconnaître dans son discours.
À différentes reprises, vous avez parlé de la mort comme si elle vous occupait.
Oui. Oui, je crois, en effet, ça m'occupe. Parce que peut-être en effet que c'est un problème qui est religieux fondamentalement, mais je pense qu'il n'y a pas d'expérience humaine fondamentale qui n'associe le sens qu'on donne à la vie au sens qu'on donne à la mort. Et que cette opaque limite sur laquelle se joue aussi bien le courage, le travail, l'amour, le risque de perdre, est quelque chose de si essentiel à l'organisation de la vie que l'élimination du problème de la mort est l'atrophie de la possibilité d'exister.
Mais l'historien que vous êtes s'occupe du passé pour expliquer le présent. Toutes vos interrogations sont des interrogations d'aujourd'hui. Alors que pensez-vous, vous prêtre, vous historien, vous théologien, par exemple, de ce grand sujet qui est devenu terriblement à la mode, c'est la pornographie. Oui. On en parle de tous côtés. Et on en parle tellement qu'on finit par la mettre au sommet.
Oui, mais justement, je pense que c'est un grand alibi aussi. La pornographie, même déjà dans son étymologie grecque, veut dire « vente ». Et que ce qui est à la base, ce n'était pas un problème.
Vendre, dans le sens
vendre
se
son
prostituer.
Corps. Oui, mais c'est un échange commercial. Et on peut se demander, en effet, depuis la pornographie jusqu'à tous ces réseaux de sex shop ou de films, de maisons de prostitution, etc. Comment fonctionne ce réseau de vente? Oui, avec, vous savez qu'il y a 20 millions, par exemple, de gens qui ont vu des films pornographiques dans l'année. Qu'est-ce que ça signifie que ce réseau opaque? Pourquoi y va-t-on? Et par quel besoin? En raison de quelle élimination ailleurs? Soit en ce qui concerne la question de l'amour, du corps, enfin ce grand lieu aussi de non-savoir aujourd'hui. Je n'ai pas fait d'études spéciales sur.
Mais vous êtes tenté d'aller voir un film comme celui-là?
Non,
comme cela?
Non, je ne suis pas très tenté par ça.
Ça n'apporte rien à votre savoir.
Ou c'est pas une question de savoir. Je pense que la relation au corps, à l'amour, au commerce, à l'argent, toutes ces questions cardinales de l'existence, qui se trouvent, je crois, localisées aussi dans la pornographie. Car c'est le problème de l'argent, c'est le problème du corps, c'est le problème de l'amour qui est là derrière, peuvent avoir d'autres régimes d'expression que celui-là. Et pour le moment, je ne me sens pas particulièrement fasciné par la pornographie. Mais...
Michel Le Certeau, occupé comme vous l'êtes par Freud, vous seriez tenté d'être diabolique et peut-être seriez-vous content d'être possédé. La possession de Loudun doit vous poursuivre encore aujourd'hui.
Non, je ne peux pas dire que ça hante mes nuits. Mais c'est vrai que je suis possédé, mais je suis possédé par des questions.
Plus que par des réponses.
Plus que par des réponses. C'est-à-dire que toute réponse, c'est un jalon dans l'itinéraire, le travail aussi d'un certain nombre de questions. Et vous savez que c'est vraiment la question posée par la possession aussi. Qui possède qui? Quoi possède quoi? C'est-à-dire que nous sommes toujours possédés, et le poète aussi est possédé. Rilke qui disait ce n'est pas le poète qui écrit, c'est Dionysios, ou Nietzsche disait ce n'est pas le philosophe qui pense, ça pense en lui, quelque chose de plus fondamental vient en lui, et ça c'est la possession. Et en effet, peut-être que nous sommes habités là, nocturnement, par un certain nombre et possédés par un certain nombre de questions qui lentement viennent au jour sous la mutation, la métamorphose d'une écriture, d'un travail, d'un type de relation, et qu'il y a ce rapport incessant entre ce qui dans la nuit nous possède et ce que dans le jour nous possédons comme capacité de travail.
Vous êtes-vous demandé comment on racontera le XXe siècle?
Non. Parce que je n'ai
ce que l'on dira des événements d'aujourd'hui.
Je n'ai aucune idée là-dessus. Je ne me suis jamais senti une compétence.
Pourtant, c'est le présent. C'est le présent que vous pourriez mettre.
Ce qui m'intéresse, c'est
encore de l'histoire.
Oui, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est de vivre le présent. Maintenant, de savoir comment on écrira ultérieurement son histoire quand je serai mort ou quand nous serons morts, ça ne m'intéresse pas énormément. Enfin, ça sera leur tâche à eux, pas la nôtre.
Enfin, l'interrogation que vous portez sur l'histoire n'est pas muette. Et l'histoire de demain.
Oui, mais ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que justement, c'est une production d'aujourd'hui.
C'est un métier, l'histoire.
Ça, c'est pas. Enfin, il y a des gens qui en font leur métier. Ça existe, le métier d'historien.
Mais il faut la faire comme un métier.
Non, c'est pas sûr, parce qu'il y a un certain nombre de très grands historiens, je suppose Tocqueville, qui n'étaient pas du tout historiens par métier.
Vous vous dites que c'est une question d'écriture, d'abord.
Non, je dis que c'est lié à l'écriture. Mais j'entends par l'écriture quelque chose peut-être d'un peu particulier, je veux dire pas nécessairement le fait que c'est un livre écrit. Mais je prends l'écriture en tant que c'est une praxis, enfin une pratique occidentale, apprise déjà par l'enfant, au départ de sa formation, et qui organise, à mon avis, toute la société occidentale depuis 3 siècles. Qu'est-ce que c'est écrire ? C'est avoir une page blanche, y tracer, grâce à des opérations, un certain nombre de lignes, et grâce à cette page blanche, changer quelque chose de l'environnement. Bon, j'ai l'air comme un projet, une utopie, on peut créer un mode de maison, de ville, d'entreprise.
C'est également une mise en scène, alors ?
Alors, oui, mais ce qui me semble intéressant, c'est d'abord la page blanche, c'est-à-dire la possibilité de découper un espace propre dans lequel on puisse faire ce qu'on veut, où un vouloir peut s'écrire. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué l'origine, je crois, de l'Occident depuis le XVIe siècle. Cette possibilité de dire, voilà, j'ai un champ, il est limité, mais là, je peux faire quelque chose. Comme dans l'idée de laboratoire, comme à l'autre limite, l'idée de révolution, est liée à cela, c'est-à-dire pouvoir se constituer comme page qu'on va écrire. Et sur cette page blanche, il y a des opérations qui consistent donc avec une plume, etc., mais c'est des opérations maîtrisables, comme dans le champ propre d'une activité de physique nucléaire, où bon, on a la possibilité de faire se croiser un certain nombre d'éléments. Et le troisième aspect, cette construction écrite est le mode d'intervention dans des champs sociaux ou naturels, etc.
Michel de Sarteau, il y a également la relation hier-aujourd'hui. Alors, l'information du passé, ou plutôt l'intelligence du passé, nous informe-t-elle sur les préoccupations du présent ?
Non, ce n'est pas ça exactement, puisque le passé, c'est nous qui l'inventons. La représentation du passé, c'est un des modes sur lesquels le présent s'énonce.
Inventer le passé, c'est vite dit. Hein.
Non, mais je dis que ce n'est pas sans contrôle. Mais au fond, l'histoire, c'est une construction d'historiens aujourd'hui, selon des méthodes actuelles, et avec la résistance d'un matériau ou de situation ancienne. Donc c'est la façon dont le présent s'affronte...
C'est une fiction du présent.
Ce n'est pas simplement une fiction, parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a des techniques. Mais ces techniques appartiennent au présent. Et c'est le mode sur lequel le présent s'affronte à sa propre limite. C'est quelque chose d'autre qu'il dépasse.
Je voudrais savoir, Michel de Sarteau, si c'est votre expérience religieuse qui a construit votre langage.
Alors ça, vous...
Allez-moi un langage de jésuite.
Oh, ça, je crois pas. Enfin, ça, vous pourriez me le dire. J'en sais rien du tout.
Mais... Qu'est-ce que ça veut dire d'abord lorsqu'on dit de quelqu'un, c'est quel jésuite ?
Oh, c'est pas très favorable, généralement.
Ah, c'est quand même, il y a une nuance.
Enfin,
de
ça joue
respect,
dans les. Ça, oui, mais justement, c'est pour ça que moi je ne tiens. Enfin, ce n'est pas cette qualité-là qui peut créditer ou définir un travail. Bon, très bien, on peut en penser ce qu'on veut. Il est certain que j'étais marqué par cette expérience-là, mais ce n'est pas cela qui m'autorise d'aucune façon. Ce qui me semblerait plus important, c'est, je dirais, peut-être, comme jésuite, puisque je le suis depuis 1950, et plus fondamentalement comme chrétien, car pour moi, d'être jésuite, ça n'a jamais été qu'une manière de chercher à être chrétien. C'est deux qualités, enfin, que je souhaiterais petit à petit trouver. La première, c'est la pudeur, c'est-à-dire la modestie d'une tâche particulière, et que justement le mirage qui entoure l'idée de jésuite me semble, à ce point de vue-là, de l'ordre de la tromperie. Et deuxièmement, la gratitude, enfin plus exactement, l'endettement par rapport à une expérience et à beaucoup d'autres expériences à qui je dois beaucoup, qui m'ont permis de faire ce que je fais, mais ce que je fais d'autres, ce n'est pas du tout mon identité. Je ne m'identifie pas à toutes ces expériences envers lesquelles j'ai de la gratitude. Et que cette dette dans la distance, dans la différence, me paraît aussi quelque chose qui définit une certaine position à l'égard d'une tradition chrétienne ou jésuite.
Michel de Certeau, dans cette vie tellement occupée par l'histoire et par la réalité, y a-t-il encore un peu de place pour le surnaturel?
Vous voulez absolument que le surnaturel soit là, un petit casier de plus, un tiroir différent, une région, un paradis. Vous savez, autrefois, au XVIIe siècle, il y a des livres qui montraient où était sur la carte du monde le paradis. Et quand vous me parlez
de... Où est-il le paradis?
Eh bien, justement, en tout cas, pas là. Alors, quand vous me demandez où est le surnaturel, c'est au fond la même carte que vous me demandez, de localiser le paradis quelque part. Je crois, justement, que...
Chez vous, vous pouvez le localiser.
Non, je ne me sens pas plus chrétien quand je prie que quand je fais un travail technique ou quand j'ai un engagement politique. C'est différents types d'activités. Mais je me sens chrétien plutôt, ou je cherche à l'être à travers toutes ces activités, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, au fond, ce qui caractérisera le chrétien, c'est cette possibilité de se perdre dans le murmure de l'histoire, de l'activité de n'importe qui, en sachant que c'est là que Dieu est caché.
Merci Michel de Certeau. France Inter, bientôt 18h, j'ai accueilli aujourd'hui Michel de Certeau. Demain, notre rendez-vous, demain, Jean Matteoli, président des Charbonnages de France. À demain.